Bonjour Mehdi Labzaé.
Bonjour.
Pourquoi le pouvoir éthiopien a-t-il décidé de libérer Jawar Mohamed, Eskinder Nega et certains responsables du TPLF?
Alors, c'est une bonne question. Les raisons sont multiples. On peut déjà dire que la guerre a été un désastre économique majeur, y compris dans le camp gouvernemental, et que donc le gouvernement se devait de chercher une voie de sortie plus rapide, prenant acte du fait qu'aucune force n'arrivait à vraiment imposer sa victoire sur l'autre. Donc, ce que le gouvernement essaye de faire, c'est de maquiller une victoire à la Pyrrhus, un retrait des forces de défense du Tigray à l'intérieur du Tigray, mais au prix d'énormes pertes de l'armée fédérale, de maquiller ça en victoire magnanime avec un premier ministre qui libérerait des prisonniers politiques une fois sûr de sa victoire.
Alors justement, le pouvoir parle de sa volonté d'organiser un dialogue national inclusif. Est-ce que, en procédant à ces libérations, il constitue d'une certaine manière un noyau d'interlocuteurs pour ce futur dialogue?
Peut-être on note la libération de Jawar Mohamed et Bekele Gerba, qui sont deux leaders du Congrès fédéraliste Oromo et qui sont de vrais opposants politiques dont on peut douter qu'ils vont rentrer dans le rang. Donc, si un dialogue national avec ces gens-là était ouvert, c'est un bon pas. Cependant, en ce qui concerne la libération de gens qu'on a présentés comme des cadres du TPLF, il n'y a pas grand-chose de nouveau, puisque les personnes libérées sont pour l'essentiel des gens qui n'avaient plus de responsabilité à l'intérieur du TPLF. Je pense au premier d'entre eux, Sabahat Nega, dont on a beaucoup parlé. C'est un vieux monsieur qui a été longtemps membre du comité central du TPLF, mais qui n'avait plus de responsabilité à l'intérieur du parti au moment où la guerre a commencé. Donc, c'est un geste symbolique fait par le premier ministre le jour du Noël orthodoxe. Mais on ne peut pas présager d'ouverture de négociations avec le TPLF à ce stade-là, d'autant moins qu'après la libération de ces prisonniers, on a vu des frappes sur le Tigray, des frappes aériennes menées par drone, avec des dizaines de morts civiles ces derniers jours.
Alors, vous l'évoquiez, l'une des personnalités qui a été libérée, c'est Jawar Mohamed, un homme de médias puissant, l'un des principaux contradicteurs même du Premier ministre Abiy Ahmed au sein de la communauté Oromo dont ils sont tous les deux issus. Dans quelle mesure est-ce que cette libération de Jawar Mohamed fait partie d'une bataille des cœurs pour essayer d'apaiser les tensions entre le régime et les Oromo?
C'est peut-être ça, dans le sens où on verrait un Premier ministre, Abiy Ahmed, qui essaierait de se retourner vers une base sociale Oromo, après avoir été très allié aux nationalistes Amara depuis le début de la guerre. Bon, il faut cependant bien voir que, même s'il est très populaire, Jawar Mohamed n'est pas l'unique représentant politique des Oromos et pas l'unique force politique en Oromia. C'est près de 40 millions d'habitants, hein, 35 millions d'habitants, la région Oromia d'Éthiopie. Donc il y a beaucoup, beaucoup de forces politiques différentes, avec des sociétés politiques locales qui sont également parfois très différentes. Et à l'heure actuelle, on a un autre groupe, l'Armée de Libération Oromo, qui contrôle un certain nombre de campagnes, notamment dans l'ouest du pays et notamment aussi dans le sud, qui eux n'ont pas abandonné les opérations militaires. Donc la
Contre le
libération de Jawar
régime.
Mohamed contre le régime, voilà. Le gouvernement éthiopien ne contrôle plus toute une partie du territoire dans l'ouest du pays, dans le Wallagga ou dans le sud, en pays Borana. Et ces gens-là, l'armée de libération Oromo, disons que les leaders politiques de ce groupe, pour ceux qui étaient en prison, les quelques qui étaient en prison, ils n'ont pas été libérés. Et puis, ils ne sont pas complètement alliés avec Jawar Mohamed. Ce sont des groupes politiques qui sont différents. Donc, même si Abiy arrivait à coopter les gens du Congrès fédéraliste Oromo, donc Jawar Mohamed et ses proches, ce qui est déjà, à mon avis, loin d'être le cas, eh bien, le conflit ne prendrait pas pour autant fin dans le reste de l'Oromia, puisque ce sont d'autres forces qui s'y battent.
Est-ce que les libérations risquent de provoquer des tensions au sein du pouvoir? On dit qu'elles ont été très mal perçues par certains responsables de la région Amhara qui a largement contribué au conflit contre les Tigréens.
Oui, tout à fait, c'est déjà le cas, les tensions sont déjà très fortes. On a des rumeurs au sein de forces armées Amara, donc de forces régionales de la région Amara, des rumeurs de préparation d'un coup d'État pour tenter de renverser Abiy Ahmed. Le président de la région lui-même a dit qu'il fallait que la population continue à se préparer, à lutter jusqu'à la fin contre le groupe terroriste, en parlant du TPLF, donc du parti au pouvoir au Tigray. Les communiqués de différentes forces politiques Amara, notamment le mouvement national Amara, qui fait partie du gouvernement fédéral, hein, qui a un poste de ministre et cinq postes au Parlement suite aux élections de juin 2020, ben ce parti a pris un communiqué condamnant la libération des prisonniers politiques Oromo et surtout des anciens cadres du TPLF, Sabhat Naga et les autres. Donc oui, les tensions sont déjà très fortes à nouveau entre les anciens alliés que sont le gouvernement fédéral et les forces Amara. Elles sont aussi très fortes au sujet de quelques localités qui ont été conquises par les Amara aux dépens du Tigray pendant la guerre. Et les nationalistes Amara disent aujourd'hui que le gouvernement est en train de les abandonner sur ces revendications. Et puis, la dernière force importante dans le rapport de force actuel, c'est l'Érythrée. Les Érythréens qui sont de facto alliés avec les nationalistes Amara et qui semblent tout à fait d'accord avec eux sur l'idée de ne pas terminer la guerre sans rentrer au Tigray.
Donc c'est un pari dangereux pour Abiy Ahmed. Est-ce qu'il peut craindre que la coalition qu'il a constituée se retourne finalement contre lui à un moment donné?
Je pense qu'il peut le craindre. En menant des entretiens avec des militants nationalistes Amara, dès le début de la guerre, ils étaient très clairs sur le fait que c'était une alliance de circonstances. Et pas du tout une alliance idéologique, c'était quelque chose de très pragmatique pour eux que de s'allier avec le gouvernement fédéral. Donc il peut le craindre, mais cependant, les conséquences de la guerre en termes de pertes humaines et en termes de destruction et de désastres économiques, elles sont les mêmes pour le gouvernement fédéral et pour la région Amara. On peut penser que la région Amara aura du mal à continuer la guerre toute seule ou juste avec les Érythréens également. De toute façon, c'est de tous les côtés d'énormes pertes.
Est-ce que vous voyez une dimension internationale par ailleurs dans ces libérations, Mehdi Labzaé?
Peut-être que les hausses de ton de la communauté internationale ont fini par porter, notamment la fin de l'accès de l'Éthiopie à un accord de douane avec les États-Unis dont l'Éthiopie était bénéficiaire. Personnellement, j'aurais tendance à penser que c'est plus le désastre économique et les pertes pour l'armée fédérale qui ont poussé le gouvernement à réaliser qu'il ne pouvait pas continuer cette guerre comme ça indéfiniment. Plus ça que les légères pressions de la communauté internationale.
Merci Mehdi Labzaé.
Je vous en prie.